Au chapitre 5, versets 10 à 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 10 à 21.
En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent la fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu.
Alors vous êtes peut-être surpris, j'ai pensé comme on ne serait pas très nombreux ce matin de intercaler ce message ici, parce que Genèse 12 est vraiment essentiel, et puis quand on aura vu ensemble Genèse 1 à 11 et qu'on loupe Genèse 12, c'est comme si on loupe le meilleur, hein. C'est pas que la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le gâteau, c'est ce qu'il y a de meilleur dans Genèse en réalité. Les promesses de Dieu qui sont encore vraies pour nous aujourd'hui, réalisées en Jésus-Christ. Alors, je ne pouvais pas priver une grande partie de l'Église, j'espère que vous comprenez ça. Et donc, on est maintenant un petit passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Il a intitulé ce message « Appelé à être des ambassadeurs pour le Christ ». Et en fait, on a vu la semaine dernière que, justement, quand Dieu disperse les nations, on avait vu que c'était une bonne chose, parce qu'il va mettre des témoins pour son évangile, pour la bonne nouvelle d'une réconciliation avec Dieu parmi toutes les nations. Alors, on pense aux ambassadeurs, et comme vous savez, ça va devenir de plus en plus fort devant nous. C'est bientôt la Coupe du Monde au Brésil. La grande question, est-ce que les Bleus seront les dignes représentants de la nation française, ou au moins du foot français? Est-ce qu'ils vont être des bons ambassadeurs de leur maillot, de leur pays? Chacun va aider à son pays, l'Algérie, la France. Le Madagascar, ah non, ils ne sont pas qualifiés. Bon, c'est pas grave, on aime bien quand même Madagascar. Hein, c'est pas... Mais chacun va être derrière son pays. Hein, et on se demande, est-ce que les Bleus vont être des bons ambassadeurs? Dans le passé, ils n'ont pas trop été. Alors, on va voir cette fois-ci. Hein. Mais laissons-là un peu les Bleus. Nous, avec ce passage, nous sommes appelés à être des ambassadeurs pour le Christ. Ambassadeur pour le Christ. Quelle responsabilité! C'est-à-dire que nous sommes choisis pour représenter les intérêts de celui qui nous envoie, pour faire connaître son avis, pour faire connaître ses prises de position, ses conditions pour entrer en relation avec lui, pour donner une image authentique de celui que nous représentons. C'est ça que fait un ambassadeur, n'est-ce pas, dans un pays. Et notre réaction en réalisant cela ce matin, c'est peut-être de nous dire, mais qui est capable d'une telle mission? Qui est capable d'une telle mission? Alors cherchons des réponses dans notre passage ce matin. Quels sont les secrets de l'apôtre Paul, de son équipe, Timothée, Tite, Silas? Qu'est-ce qui les poussait à prendre au sérieux cet ordre de mission de la part de Dieu? Et suivons les traces de ses frères, parce que Paul lui-même nous exhorte à cela. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11, il dit « Imitez-moi, comme moi-même j'imite le Christ ». Alors il y aura trois parties dans ce qu'on va partager ce matin. D'abord, j'aimerais vous encourager à trouver vos motivations dans la crainte de Dieu en tant qu'ambassadeur, d'accord? Puis deuxièmement, j'aimerais vous encourager à trouver vos motivations dans une bonne connaissance de l'Évangile, la bonne nouvelle de notre salut. Et après, je voudrais vous encourager à trouver vos motivations en tant qu'ambassadeur pour le Christ dans une bonne compréhension de la souveraineté de Dieu. Parce que la première chose que nous pouvons faire, c'est puiser nos motivations dans la crainte de Dieu. C'est la première chose qui m'a frappé quand j'ai lu cela. C'est dans la perspective du jugement final que Paul envisageait toute sa vie. Verset 10, « Car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ pour que chacun recueille selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps, soit du bien, soit du mal. » C'est aussi avec cette vision au plan large de notre existence que nous devrions vivre notre vie. C'est ce que Paul faisait. C'est ce que de nombreux chrétiens persécutés font aussi. Et vous savez, quand vous êtes dans les épreuves, dans les difficultés, quotidiennement, de manière injuste, simplement parce que vous professez la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qui peut soutenir votre espérance? Ben, c'est la certitude de savoir qu'un jour, toutes ces souffrances cesseront, que tous les humains, bons et méchants, seront face à Dieu au jour du jugement. Et nous devons nous aussi être dans cette attente. L'apôtre Paul nous y encourage lui-même. Puisque nous savons que notre vie sera mise en pleine lumière devant Dieu, nous devrions être dans la crainte de Dieu. Et quand on entend ça, parfois une partie de nous se hérisse quand on entend cette expression. L'apôtre Paul parle ici de révérence, n'est-ce pas? D'un respect immense pour Dieu et non pas de frayeur. On vient de le dire, « N'aie pas peur, Jacob, Israël, le peuple que Dieu a façonné n'a pas à avoir peur de Dieu. » La crainte du Seigneur, c'est un profond respect pour Dieu, une attitude dans laquelle nous abandonnons toute prétention pour nous soumettre à Dieu, qui est profondément bon. La crainte de Dieu, elle commence avec cette conscience que nous ne sommes pas, nous, le centre de l'univers, mais qu'au-dessus de nous se trouve le Dieu qui a tout créé. Et cette crainte de Dieu est positive. Elle nous pousse à l'action, comme elle poussait Paul et son équipe. Regardez le verset 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à persuader les humains. Il y a ce petit donc. Voilà quelque chose qui pousse l'apôtre Paul positivement à persuader les humains. C'est ce que faisait Paul en tant qu'ambassadeur pour le Christ, et ça tient en quelques mots. Il cherchait à persuader les humains. Quand on cherche quelque chose, quand on cherche à faire quelque chose, c'est une action qui demande et qui mérite nos efforts. Il faut réfléchir, il faut décider. Comment est-ce que je vais être un bon ambassadeur pour le Christ aujourd'hui? Comment partager l'Évangile au moins à une personne aujourd'hui? Et Paul cherchait à persuader. Notre foi n'est pas subjective comme certains aimeraient bien nous faire croire. Non, elle repose avant tout sur les Écritures révélées, sur des faits historiques, tangibles et attestés. Jésus est venu vraiment, en personne, pour nous révéler le Père. Alors Paul cherchait à persuader, il cherchait à persuader qui? Uniquement les Juifs? Ou uniquement les pauvres? Ou uniquement ceux qui avaient des diplômes universitaires? Mais non, il cherchait à persuader les humains. Donc tous, sans exception. Il n'existe pas de liste noire sur laquelle on pourrait dire « Oh non, cette personne-là, pas la peine, de toute façon, elle ne va jamais comprendre, elle ne va jamais répondre. » Paul cherchait à persuader les humains. Vous voyez, le champ de mission est immense. Et quand j'ai réfléchi à ça, ça m'a fait penser à un témoignage que j'avais entendu justement en Algérie, dans un voyage que j'ai pu faire là-bas avec Portes Ouvertes. Et on a rencontré un gars qui s'appelait Kamal, mon frère, en Christ. Et il y a beaucoup de chômage, malheureusement, en Algérie. Et Kamal, il avait souvent des périodes où il n'avait pas de boulot. Et donc, quand il pouvait, il prenait le bus. Il prenait un billet, il faisait toute une ligne jusqu'au bout de la ligne, et puis il revenait au point de départ. Et dans le bus, ce qu'il faisait, c'est qu'il priait et il demandait à Dieu de lui donner des occasions de dire l'évangile. Donc c'était un prétexte, d'accord, de prendre le bus juste pour être là avec d'autres, pour avoir une occasion de l'évangéliser. Parfois on lui demandait un stylo, parfois on lui demandait une direction, où est-ce qu'on doit descendre pour aller à tel endroit. Voilà, lui il essayait d'entamer une conversation et puis il essayait d'orienter la discussion donc, pour une annonce de l'évangile. Oui, j'ai un stylo. En plus, j'ai quelque chose d'encore plus grand à vous dire. Voilà, et il commençait à expliquer comment Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Quand il trouvait une personne prête à parler davantage, il avait remarqué qu'il y avait des gens autour de lui dans le bus qui écoutaient. Alors, comme il était malin, il faisait porter sa voix. Il avait appris à faire ça de plus en plus. Il parlait assez fort pour que d'autres autour puissent profiter de la discussion. Et voilà qu'un jour, un homme qui était dans le bus s'est levé. Il était fâché. Il était fâché contre Kamal. C'était un musulman voilà, qui n'acceptait pas qu'on puisse annoncer le message de l'évangile. Et donc il est venu, il s'est présenté devant Kamal. Il a fait lever au milieu de l'allée et il était menacé de frapper Kamal. Tais-toi! Tout ce que tu racontes, c'est des mensonges. Si tu ne te tais pas tout de suite, je te frappe. Et Kamal a dit ceci. Kamal, je crois, il a accepté tout comme venant de Dieu. Il a répondu calmement à cet homme. Si cela ne t'a pas été donné d'en haut, tu ne peux pas me toucher. Il a repris les paroles de Jésus au moment de son procès. Si cela ne t'a pas été donné d'en haut, pardon, tu ne peux pas me toucher. Et soudain, cet homme qui était en colère, rouge de colère, dans le bus, était pris de confusion. Il a commencé à bredouiller, il ne savait plus quoi dire. Et tout tremblant même, il est retourné s'asseoir à sa place. Alors Kamal, vous imaginez, encouragé, porté par le Seigneur dans cette expérience-là, il est resté debout au milieu de l'allée du bus et il a commencé à annoncer l'évangile à tout le bus dans ce trajet-là. Je trouve ça assez interpellant qu'un des plus grands points pour notre témoignage à nous ici à Cavallo, c'est la crainte, non pas du Seigneur, mais la crainte d'être rejeté par ceux à qui on veut annoncer, témoigner de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Cette peur de ce que la personne pourra bien penser de nous est souvent plus importante à nos yeux que la peur de ne pas nous trouver dans la volonté de Dieu, en train de témoigner pour lui. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La crainte des hommes n'est pas de la même nature que celle que nous pouvons avoir de Dieu. La crainte des hommes, elle nous paralyse, tandis que la crainte de Dieu, elle nous libère et elle nous pousse à l'action, elle est positive. Il faut comprendre quelque chose ici pour ne pas tomber peut-être dans un autre penchant moule. En prenant à cœur notre rôle d'ambassadeur pour le Christ, nous ne cherchons pas à le faire pour essayer d'apaiser un Dieu qui serait en colère contre nous. Non, par Jésus-Christ, les croyants sont réconciliés avec Dieu déjà. Nous ne cherchons pas non plus à faire les malins, à briller devant les hommes, à utiliser notre service pour le Seigneur comme un moyen de nous donner une belle façade d'hommes et de femmes respectables. Cela devrait provenir d'un désir authentique de plaire à Dieu, pour servir notre prochain. Toujours avec Portes Ouvertes, j'ai entendu ce témoignage un jour d'un pasteur en Mauritanie, donc en dessous du Maroc, de l'Algérie. Il était pasteur d'une église clandestine. Vous savez que là-bas, c'est compliqué, on ne peut pas afficher sur le devant de l'église. Voilà, ici se réunissent des chrétiens, c'est quelque chose qui est interdit. Et voilà qu'un jour, on vient le chercher à son domicile. Et c'est la police. Qu'est-ce que vous faites quand la police vient vous voir? Elle dit, voilà, monsieur, vous êtes convoqué au poste, au commissariat, on aimerait régler quelques affaires avec vous, donc veuillez nous suivre. Et lui, ce pasteur, n'avait pas conscience de ce qui se passait, il n'avait pas conscience de pourquoi on l'avait convoqué au poste de police, donc il s'y rend sans s'imaginer ce qui l'attend. À peine il a été rentré dans le poste de police qu'on l'a saisi, on l'a ligoté, tenez-vous bien, on l'a plongé pendant 3 jours, attaché donc, et ligoté comme un saucisson, dans une fosse septique. Et on l'a laissé là pendant 3 jours. Puis au bout de 3 jours, la police l'a sorti du puits, et la première question que les policiers ont posée, est-ce que vous êtes chrétien? Quelles sont les activités que vous avez en tant que chrétien? Et pendant plusieurs jours encore, il a été torturé. Finalement, au bout de quelques jours, la police l'a relâché. Il a pu rentrer chez lui, à la maison. Mais réfléchissez un peu avec moi. Il aurait pu renier sa foi. On l'aurait sorti de cette fosse. On lui aurait donné une douche. Il aurait retrouvé une apparente dignité devant les hommes. Mais il aurait perdu l'estime de son Dieu, n'est-ce pas? Mais lui, il avait compris que l'apparence n'est rien. Et il a choisi de rester fidèle à Dieu, par amour pour Dieu. Il était motivé par une crainte positive de Dieu. Il savait qu'il aurait sa récompense de Dieu. Un deuxième encouragement que j'aimerais vous donner pour être ambassadeur pour le Christ, c'est de puiser vos motivations dans une bonne connaissance de l'Évangile, la bonne nouvelle de notre salut. L'Évangile est résumé ici en quelques mots, on voit ça au début du verset 14. L'amour du Christ nous presse, donc Dieu nous a aimés, il y a une bonne nouvelle à annoncer. Et le verset 19 à 21. Verset 19, « Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes. » Et le verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Christ, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Ou encore, dans ce passage, « Jésus-Christ est mort pour tous. » Donc tous sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour le Christ. Qui est mort et qui s'est réveillé pour eux. Ceux qui ont compris cela, qui ont mis leur foi en Jésus avec ce qu'il a accompli à la croix, ne sont plus les mêmes. Vous avez remarqué cela dans le passage? Un changement radical s'opère dans leur être. C'est une nouvelle naissance. On pouvait peut-être les connaître d'une certaine manière avant, mais les voilà différents maintenant. Sans s'arrêter aux apparences, justement, on regarde l'être intérieur. Et ce que nous découvrons, c'est que toute personne unie au Christ reçoit un nouveau départ. Elle est en fait une nouvelle créature, rien de moins. Il y a un avant et un après. Frère André m'a raconté ce témoignage-là. Frère André, c'est le fondateur de Porte Verte. En 2005, il était en Afghanistan, dans un endroit isolé. Il y avait plusieurs dizaines de talibans, anciens talibans, des frères en fait, qui étaient venus à la foi en Jésus-Christ, et qui était prêt à passer par les eaux du baptême. Je ne sais pas si vous avez quelques images de talibans avec leur turban, leur longue barbe. Ils étaient là, tous autour de la pièce, dans un endroit secret. Il y avait de la tension, parce que là, vous imaginez en Afghanistan être retrouvé en tant qu'ex-musulman, devenu chrétien, prêt à se faire baptiser. Imaginez ce groupe d'hommes qui avaient passé sa vie à combattre les Russes, se combattre entre eux, entre les différentes factions, combattre les Américains qui venaient d'arriver, etc. Toute leur vie, c'était qu'un combat, c'était que la violence et la guerre, les tueries. Et voilà que frère André était en train de donner un message sur 2 Corinthiens 5, il était en train d'annoncer à ses frères, voilà, maintenant que vous êtes venus à la foi de Jésus-Christ, il y a une nouvelle naissance, vous êtes de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et pendant que frère André était en train de donner un message sur 2 Corinthiens 5, voilà qu'il y a un homme tout d'un coup au fond qui s'agite et qui lève la main comme ça. Et donc, on demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu t'agites? Et cet homme-là, à ce moment-là, explique, en arrivant ici, j'étais paralysé de tout le côté, droit, gauche, peu importe, tout un côté. Et au moment où frère André a annoncé ces nouvelles-là, ben, j'ai senti une force dans mon bras, et regardez, je suis guéri. Il n'y a pas eu de prière spécifique, on n'a pas jeûné pendant des jours et des jours, il n'y a pas eu imposition des mains ou je ne sais quoi, mais la simple proclamation de cette vérité biblique avait suffi. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Le Seigneur tenait, je crois, à montrer à ses frères afghans toute la portée du changement qui s'était opéré en eux. Il ne s'agit pas d'un changement qu'on serait capable de produire par nous-mêmes, par nos propres efforts, mais c'est donné par Dieu. Cette régénération qui s'opère en nous n'a pas qu'un effet dissimulé au fond de nous, mais elle nous pousse à vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous sauver. Permettez-moi de vous dire encore un témoignage qui m'avait beaucoup frappé dans l'époque où j'ai travaillé avec Portugal. C'est celui de Nourta, en Somalie. Si vous voyez la Somalie, c'est sur la côte de l'Afrique, en Est. Elle avait 17 ans, cette jeune fille. Et elle avait grandi, comme beaucoup de gens en Somalie, dans une famille musulmane. Mais après avoir entendu l'évangile par des amis, elle a décidé de confier sa vie à Jésus-Christ. Le problème, c'est que quelques mois plus tard, sa famille s'est rendue compte. Nourta n'est plus la même. Ils ont fait leur petite enquête et ils ont découvert que Nourta était devenue chrétienne. Alors sa famille a commencé à la battre. Pour eux, c'était une question d'éducation. Elle se rebellait contre l'éducation des parents, donc il fallait, la punir pour ça. Et Nourta, pendant des mois, a tenu ferme dans sa foi, malgré ce mauvais traitement. Alors, voyant sa détermination, ses parents l'ont emmenée chez un médecin. Ils ont dit, mais c'est pas possible, notre fille est devenue folle. Ou même si ce n'est pas leur conviction, en tout cas, il valait mieux qu'un médecin la déclare folle pour laver la honte qui pouvait s'attacher à la famille si quelqu'un, maintenant, dans cette famille, était devenu chrétien. On avait une bonne excuse, mais elle est devenue folle, on n'y peut rien. Et ce médecin a prescrit donc des médicaments pour essayer de résoudre des troubles mentaux, mais qu'elle n'avait pas du tout. Alors, droguée avec toutes sortes de médicaments, Nourta a tenu bon, en souffrant, moralement bien sûr, et dans son corps à cause des médicaments qui n'étaient pas adaptés pour sa condition. De plus, pour beaucoup de Somaliens, les récitations du Coran sont réputées guérir les maladies, comme quelque chose un peu de magique, surtout les maladies mentales. Alors, ses parents l'ont forcé à écouter deux fois par semaine les récitations des sourates du Coran. Vous imaginez pendant des mois et des mois, voilà ce que Nourta a vécu. Et finalement, voyant que les punitions et la prise de médicaments n'ont pas d'effet pour faire revenir Nourta à l'islam, ses parents ont décidé de l'enfermer dans un kajibi sans fenêtre chaque nuit et de la mettre là. Et dans la journée, de la lier à un arbre au milieu de la cour, là où ils habitaient, au tronc d'un arbre. Et quand j'ai entendu ce témoignage, je me suis demandé, mais à quoi pensait Nourta, attachée à son arbre, quand elle sentait ses forces sur le point de l'abandonner dans la chaleur de l'après-midi en Somalie? Je me demande à quoi pensait Nourta, attachée à son arbre, quand elle sentait sa raison vaciller, qu'elle était peut-être à deux doigts de céder à ses parents en reniant sa foi pour échapper à ses souffrances. Pas dire pour elle, mais ma conviction, c'est qu'elle pensait sans doute à son cher Jésus qu'elle avait choisi de suivre. Lui aussi a été attaché à un arbre, à un tronc d'arbre, à un tronc de bois, parce qu'il avait choisi de faire la volonté de son Père. Nourta avait bien compris que si Christ est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Christ, qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Nous sommes dans des contextes différents, on n'est pas à l'identique, les mêmes souffrances que Nourta, mais nous sommes appelés nous aussi à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Pourrions-nous continuer à vivre notre vie pour nous-mêmes, ne serait-ce que partiellement, sans finalement mépriser Jésus qui a donné sa vie entièrement pour nous, sans risquer de mépriser notre sœur Nourta et d'autres comme elle, aujourd'hui même, qui ont choisi de rester fidèles au Seigneur, quel qu'en soit le prix. voudrais vous encourager encore. Alors, à trouver vos motivations dans une bonne compréhension de la souveraineté de Dieu. Pour rappeler la question qui nous est venue à l'esprit au début, mais qui est capable d'une telle mission? Qui est capable d'être un ambassadeur pour le Christ? Moi. Rappelons-nous tout d'abord que c'est Dieu qui nous confie cette mission. Il sait ce qu'il fait. C'est son choix souverain de nous utiliser comme ses ambassadeurs dans le monde. Qui pourrait le lui reprocher? Qui pourrait prétendre que le choix de Dieu n'est pas le meilleur? Pourtant, ça en a l'air, hein, en apparence, on se regarde, on est si faible, si fragile. Et d'une certaine manière, c'est vrai, ça nous dépasse. Paul dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre pour que cette puissance supérieure soit celle de Dieu et non pas la nôtre. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Le Seigneur choisit de nous envoyer, petits et grands, avec beaucoup d'expérience, avec peu d'expérience, peu importe. Mais nous découvrons, et il y a là pour nous une part de mystère, nous découvrons en fait que Dieu nous envoie, mais il vient aussi avec nous. Que ce travail qui nous est confié n'est pas une charge à porter tout seul, mais que Dieu nous veut comme des collaborateurs à ses côtés, pour faire connaître à tous les hommes et toutes les femmes autour de nous ce que Dieu est occupé à faire, c'est-à-dire appeler à la réconciliation des êtres humains. Tous, nous avons gravement offensé Dieu lorsque nous étions dans le péché. Mais maintenant, Dieu veut nous donner la justice qui vient de Jésus. Verset 21. Celui qui a obéi parfaitement au Père Céleste. Le fait de comprendre cela, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne le ministère de la réconciliation. Verset 19. C'est Dieu qui met en nous la parole de la réconciliation. Pardon, c'était verset 19, qui met en nous la parole de la réconciliation. C'est Dieu qui encourage par notre entremise les hommes et les femmes autour de nous à être réconciliés avec Dieu. Comment pourrions-nous donc fermer notre bouche? Notre responsabilité, c'est de proclamer la bonne nouvelle, de la faire connaître à un maximum de personnes. Notre responsabilité, c'est de semer de manière efficace en la vue. Paul cherche à persuader, donc il y a une réflexion là. Ce n'est pas notre responsabilité de faire en sorte que cette semence pousse. Cela appartient à Dieu. Voilà 3 motivations. Alors dans ce message, j'ai cherché à vous rappeler votre ordre de mission, notre ordre de mission à tous. Non pas pour que cela vienne se ranger dans une partie de notre cerveau, comme une voix préenregistrée de messagerie vocale. Hein. Vous avez un nouveau message, archivé. Mais ma prière, plutôt, en préparant ce message, c'est que trouvant une motivation renouvelée dans la crainte de Dieu, le respect de Dieu, équipé avec une bonne compréhension de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et enfin, sécurisé, sachant que Dieu est souverain et que notre part à nous, c'est d'être ses collaborateurs. Ma prière donc, c'est que nous repartions d'ici aujourd'hui avec la ferme intention d'être des ambassadeurs pour le Christ envers tous ceux que l'on va rencontrer cette semaine. Que le Seigneur nous aide alors et nous inspire des actions concrètes, puisqu'il a dit qu'il mettait en nous les paroles de la réconciliation. Ouvrons la bouche et comptons sur nous. Prions que nous ayons des paroles qui communiquent justement cet évangile et qu'il nous bénisse à son service. Je voudrais vous inviter à répondre à cette prédication, à ce passage, en priant ensemble. Et donc, on va faire au début des groupes. Peut-être 3. On va faire 2 groupes avec 4 personnes chacun, d'accord?